إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إخوة في الله الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى دروسنا فيما يتيسر لنا من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. طيب، فما زلنا في باب العتق. نعم، إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. إذا خرج من الثلث، إذن قال الشيخ: التدبير هو أن يقول السيد: إذا مت فإن عبدي حر. وسمي مدبرا لأن الموت دبر الحياة، ويعتق المدبر إذا كانت قيمته ثلث التركة فأقل، لحديث جابر المذكور ولحديث عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، أخرجه مسلم. Donc on poursuit inshallah ta'ala l'explication de Minhaj Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. طيب. Donc on est toujours dans le chapitre concernant l'affranchissement des esclaves. Donc il dit ici l'auteur rahimahullah ta'ala: et si le maître de l'esclave s'engage à ce que l'esclave soit affranchi, soit libéré au moment de sa mort. Yani, le maître dit, voilà, je m'engage et je déclare que lorsque je mourrai, l'esclave sera donc automatiquement libre. D'accord? Donc cet esclave-là qui se libère ou qui est libéré au moment de la mort de son maître, on dit qu'il est mudabbar. On dit qu'il est mudabbar. Donc il sera donc libéré lors de la mort de son maître, idha kharaja min al-thuluth. À condition que la valeur de cet esclave, hein, ne soit pas supérieure au tiers de l'héritage laissé par son maître. C'est-à-dire, at-tadbiru. Donc at-tadbir ici, c'est le fait que le maître dise: lorsque je mourrai ou lorsque je serai mort, mon esclave sera libre. Lorsque je serai mort, mon esclave sera libre. Donc l'esclave, de cet esclave-là, il a été appelé mudabbaran, mudabbar. Pourquoi mudabbar? Eh bien, par rapport au terme dubur, qui veut dire la fin de quelque chose. D'accord? Donc ici, c'est la fin de la vie du maître. Donc lorsque le maître arrive en fin de vie et qu'il décède, eh bien, l'esclave, yani, deviendra libre. C'est pour ça qu'on l'appelle mudabbar. Et donc, cet esclave-là, le mudabbar, sera donc affranchi si sa valeur est équivalente au tiers de l'héritage de son maître ou inférieur, bien sûr. Et cela en vertu du hadith de Jabir, qu'on va mentionner, inshallah ta'ala, et également celui de Imran ibn Hussein, qui a dit qu'un homme a affranchi six esclaves qui lui appartenaient. Il a affranchi six esclaves qui lui appartenaient, yani, au moment de sa mort. Donc il a affranchi six esclaves au moment de sa mort. Donc après sa mort, ces esclaves-là deviendront libres. Et ce maître n'avait aucun autre bien hormis ses esclaves. C'était ses seuls biens qu'il possédait. Alors, le messager d'Allah, il a appelé les six esclaves et il les a divisés comment dirais-je, en tiers. D'accord? Donc ils étaient six et il les a divisés en tiers. D'accord? Et naam. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré au sort. Il a tiré au sort et il a donc affranchi deux esclaves et les quatre autres sont restés esclaves. Pourquoi? Parce que on sait qu'on n'a pas le droit de donner en wasiya, en legs testamentaires, plus que le tiers de notre héritage. D'accord? Comme on l'a vu dans le chapitre des héritages, dans les cours précédents. D'accord? Donc s'il a que six esclaves et qu'il n'a rien d'autre comme bien que ces six esclaves-là, il ne pourra pas les affranchir, yani les six. Donc il est obligé il peut affranchir maximum le tiers des six, d'accord? C'est-à-dire deux esclaves maximum. Et les quatre autres, yani, ne pourront pas être libérés. D'accord? Lors de la mort, yani, ou par la mort de leur maître. Hadith rapporté par Muslim. Voyez? Non. فإذا كان مثلا إذا كان نصيبه الربع فيعتق الربع ويبقى ثلاثة أرباع. طيب لا نعم المدبر. طيب المدبر لا يعتق إلا بعد الدين كذلك. المدبر لا يعتق إلا بعد الدين ومن الثلث فأقل. فلو كان على السيد دين ب10,000 وقيمة العبد 10,000 فإنه يقدم الدين على العتق ويقدم الدين على العتق. ولو كان قيمة العبد 10,000 وتركت 10,000 لم يعتق إلا ثلث العبد إلا إذا رضي الورثة بذلك وأجاز الوصية فيعتق كله. Donc, c'est-à-dire que le mudabbar, l'esclave dont le maître a annoncé sa libération lors de sa mort. Al-Mudabbar ne pourra être libéré également qu'après avoir remboursé les dettes qu'avait son maître. Vous voyez? Qu'après avoir remboursé les dettes qu'avait son maître. C'est-à-dire que si son maître yani, avait des dettes, on doit d'abord rembourser ses dettes avant de libérer l'esclave. Taïeb. Et également, on ne pourra pas donc affranchir l'esclave s'il représente plus que le tiers de son héritage. D'accord? Donc, autrement dit, si le maître, par exemple, avait une dette de 10 000 euros, 10 000 euros, et que l'esclave, lui, il vaut 10 000 euros. Il vaut 10 000 euros. Donc comment on fait? Est-ce qu'on va libérer l'esclave et ne pas rembourser la dette? Non. On devra rembourser d'abord la dette, yani en vendant l'esclave, et on devra donc rembourser la dette. Pourquoi? Parce que la dette, elle est prioritaire à la libération de cet esclave. Donc si la valeur de l'esclave également est de 10 000 euros, et que cet homme-là, il a un héritage de 10 000 euros également. De 10 000 euros également. Donc on ne pourra que libérer de cet esclave-là seulement le tiers. Le tiers. C'est-à-dire qu'il aura une période de son temps dans laquelle il sera libre et une période dans laquelle il sera toujours esclave. D'accord? Yanni, son maître devra donc le laisser vaquer à ses occupations pendant une certaine part de son temps, mais dans l'autre, il sera toujours donc au service de son maître. Sauf si les autres héritiers, voyez, donc quand je dis les parts de son maître, après sa mort, c'est-à-dire les parts des héritiers du maître, d'accord? Sauf si les héritiers sont d'accord, sauf si les héritiers sont tous d'accord pour dire que, alhamdoulillah, on veut bien que l'esclave soit affranchi entièrement. Dans ce cas-là, il sera affranchi entièrement, alhamdoulillah. Naam. ثم قال المؤلف رحمه الله عن جابر أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال اقضي دينك متفق عليه. فهذا الحديث متفق عليه من حديث جابر، وهو دليل للمؤلف أن المدبر لا يعتق إلا بعد سداد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع العبد لقضاء الدين. في مشون ici le hadith de Jabir, رضي الله عنه qui a dit qu'un homme des Ansar avait affranchi un esclave à lui, عن دبور, c'est-à-dire un affranchissement qui sera effectif lors de la mort de son maître. Et ce maître-là n'avait aucun autre bien hormis cet esclave. Et cela donc est venu aux oreilles du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit, qui veut l'acheter? Qui veut l'acheter de moi? Qui veut l'acheter de moi? C'est-à-dire, qui veut acheter cet esclave-là? Et alors, Nu'aym ibn Abdullah l'a acheté pour 800, c'est-à-dire 800 dirhams. Pour 800 dirhams. Et avec ces 800 dirhams, eh bien, il les a donnés au maître pour que le maître puisse rembourser la dette qu'il avait. Pour qu'il puisse rembourser la dette qu'il avait, cela prouve qu'il est prioritaire de rembourser, yani, sa dette que d'affranchir cet esclave-là. D'accord? Donc, après le prophète, il lui a dit, rembourse ta dette. Et le hadith, muttafaqun alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Jabir. Donc, ici, c'est une preuve que l'auteur a utilisée pour dire que Al-Mudabbar ne pourra être affranchi seulement après avoir remboursé la dette, car le prophète alayhi salatu wassalam, a vendu cet esclave-là justement pour qu'il puisse rembourser sa dette. D'accord? Pour que le maître puisse rembourser la dette qu'il avait. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا. يعني صلاحا في دينهم وكسبا. On va parler ici de ce qu'on appelle Al-Kitaba ou Al-Mukataba. Donc Al-Kitaba, qu'est-ce que c'est entre le maître et l'esclave? Eh bien, c'est le fait que l'esclave va se racheter lui-même à son maître. Il va se racheter, il va racheter sa propre personne à son maître, yani en lui donnant donc une certaine somme, une certaine valeur, mu'ajjal, qui sera donc à une durée ultérieure, d'accord? Bi'ajalayn fa'akthar. Soit en deux fois ou plus. Soit en deux fois ou plus. D'accord? Tayyib. Ça, c'est Al-Kitaba. Naam. Donc, il va se libérer. C'est lui qui va payer sa libération. C'est l'esclave lui-même qui va payer sa libération en plusieurs fois, en deux fois ou plus, à une date ultérieure. Tayyib. À des dates ultérieures, plutôt. Naam. Donc, il dit Allah tabarak wa ta'ala dans la surat An-Nur, فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ In alimtum fihim khayran. C'est-à-dire, et engagez-vous à les libérer par le biais de Al-Kitaba. Justement, Al-Kitaba, on a dit, c'est le fait que l'esclave se rachète lui-même à son maître. D'accord? si vous connaissez de eux un bien, si vous voyez en eux du bien, d'accord? C'est-à-dire du bien au niveau de leur religion, au niveau de leur religiosité et de leur aptitude à subvenir à leurs besoins personnels et privés. Taïeb? Naam. Donc ça c'est Al-Kitaba. Taïeb? Idan. هذا المكاتبة بشرط أن يعلم فيه صلاحا وكسبا وقدرة على الاتجار وقدرة على الاكتساب فإن خيف منه فساد بعتقه فلا يشرع كأن يكون عالة على الناس أو يضر بالآخرين كالسرقة وقطع الطريق أو من أهل الغنى والخناء والفساد وما أشبه ذلك وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بقوله يعني صلاحا في دينهم أي استقامتهم على شرع الله تعالى وصلاحهم في كسبهم وقدرتهم على الكسب وعدم التعدي على حقوق الآخرين. Donc, on comprend par l'auteur, la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici que al-mukataba sera permis à condition que on sache de cet esclave-là, hein, que on autorise à s'affranchir lui-même, yani en plusieurs fois et à des dates ultérieures, et bien qu'on sache de lui qu'il est quelqu'un de bien, quelqu'un de bon et quelqu'un qui est à la capacité soit yani de gagner sa vie, hein, tout seul, en faisant du commerce ou en allant travailler pour quelqu'un, etc., etc. Alors que si on craint de lui, de cette personne-là, on la connaît et on redoute que si elle devient libre, elle va semer le désordre sur terre, elle va y faire du mal aux autres, eh bien cela ne sera pas permis et légiféré. Par exemple, si on sait qu'en libérant l'esclave, l'esclave sera une charge financière pour les autres. D'ailleurs, elle sera une charge financière pour les autres car elle n'a pas de quoi ni subvenir à ses besoins et elle n'a pas la capacité, par exemple. Ou on sait de cette personne-là, cette esclave-là, que si elle devient libre, elle va faire du mal aux autres. Par exemple, elle va voler, elle va devenir yani, quelqu'un de un délinquant, un criminel qui va voler ou yani, prendre les biens des gens injustement. Ou cette personne-là fait partie des gens qui font de la musique, des chanteurs, des gens qui sont obscènes, qui font des actes indécents et autres que cela. Donc ici l'auteur, il a exposé cela en disant « Salahan fi dinihim » à condition que l'on sache d'eux que ce sont des gens qui sont yani, droits et bons religieusement. C'est-à-dire qu'ils sont sur le droit chemin vis-à-vis de la législation d'Allah, tabarak wa ta'ala, et également qu'ils sont aptes à subvenir à leurs besoins, qu'ils aient la capacité de travailler par exemple, et que ce ne sont pas des gens qui vont agresser et qui vont transgresser les droits des autres personnes. Ça y est? Non. ولهذا قال المؤلف فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته فإذا خيف فساد في نفسه أو فساده لغيره سواء فساد في الدين أو الخلق أو في المال أو في العرض أو في المجتمع. Donc, encore une fois, il dit l'auteur, et lorsque l'on craint de lui un mal, une dépravation, un désordre qui va se produire à cause de sa libération, ou à cause de la kitaba, le fait qu'elle se libère elle-même en se rachetant à son maître, ou alors le fait que la personne n'a pas les capacités pour subvenir à ses besoins toute seule, eh bien, la libération de cette personne-là ne sera pas légiférée. Et également, Anil Kitaba ne sera pas non plus légiférée. D'accord? Donc, si on craint, par cette libération-là, un désordre ou un mal pour l'esclave lui-même, ou un mal pour les autres, que ce soit religieusement, ou dans le comportement, ou dans les biens, le matériel, ou l'honneur, ou la société, Dans ce cas-là, il ne sera pas légiféré de le libérer. Wala yu'taqu al-mukatabu illa bil-ada. Ay, ada'i jami'i qimatihi li sayyidihi. Li hadithi al-mukatabu 'abdun ma baqiya 'alayhi min kitabatihi dirham. Rawahu Abu Daoud. Akhrajahu Abu Daoud min hadithi 'Amr ibn Shu'ayb 'an abihi 'an jaddihi 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-Bayhaqi قال الشافعي ولم أعلم أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو بن شعيب وعلى هذا فتي المفتين وعلى هذا فتي المفتين وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته شيء وسنده صحيح. Puis il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, et al-mukatab, c'est-à-dire l'esclave qui veut se racheter lui-même à travers ce procédé-là qui est al-kitaba ou al-mukataba, ne sera totalement, yani, affranchi, véritablement affranchi, seulement qu'après avoir payé tout ce qu'il doit payer, la valeur totale pour sa libération, d'accord, la valeur totale pour sa libération. Et cela en vertu du hadith dans lequel il est dit al-mukatab, donc l'esclave reste un esclave tant que, eh bien, sa kitaba n'a pas été totalement honorée et respectée, ou tant qu'il reste, ne serait-ce qu'un dirham à payer, il restera esclave. Une fois qu'il aura payé la valeur complète et totale pour son affranchissement, eh bien, dans ce cas-là, sa libération sera effective. Donc, le hadith rapporté par Abu Daoud, selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Bayhaqi dit que Shafi'i a dit: je ne connais personne ayant rapporté cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est Amr ibn Shu'aib. Et donc malgré ça, ala hadha futi al-muftin, c'est-à-dire que les savants de l'islam ont yani, émis cet avis-là, qui est que tant que la somme totale n'a pas été payée, l'esclave restera un esclave jusqu'à donc qu'il ait payé la valeur totale. Tayyib, l'imam Malik a rapporté également dans Al-Muwatta, selon Nafi', selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'il a dit Al-Mukatab reste un esclave tant qu'il reste quelque chose à payer. D'accord? Et la chaîne de transmission ici, elle est sahih, elle est authentique. Na'am. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وعن عمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته أخرجه ابن ماجه والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم والله أعلم. Donc ici on finit le chapitre. Il dit l'auteur رحمه الله تعالى selon ابن عباس مرفوعا et selon Omar, mawqufan. Donc, ici, ces deux termes yani, de la science du hadith. Donc, ça veut dire quoi, marfou'an? Al-marfou' huwa ma udhifa ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawl, aw fi'l, aw taqrir, aw wasf fi khalqihi aw khuluqihi. Wal-mawqufu huwa ma udhifa ila al-sahabi. Donc, ici, retenez bien ces deux termes, les termes yani, du jargon de la science du hadith. Lorsque tu entends ce hadith, il est marfou', c'est un hadith marfou'. Ça veut dire quoi marfou'? C'est-à-dire c'est un hadith qui remonte au prophète, qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani qui est lié au prophète alayhi salatu wa sallam, yani au niveau des paroles, au niveau des actes, au niveau des approbations et des descriptions, que ce soit un descriptif physique ou comportemental. Ça, c'est la définition de hadith marfou'. C'est un hadith qui remonte, qui est annexé au prophète, alayhi salatu wassalam, que ce soit une parole, un acte, une approbation, une description relative à son comportement ou à son physique. Alors que le hadith al-mawquf, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est annexé à un compagnon. C'est ce qui est annexé au compagnon. Yani, le compagnon a dit ceci et cela. Ça, c'est un hadith qui est mawquf. Alors que le prophète a dit, ou le prophète a fait, ou le prophète a approuvé telle ou telle chose, ou le prophète avait tel ou tel comportement, ou était de telle ou telle يعني aspect physique. Ça, c'est tout ça, c'est des hadiths qui sont marfou', hadith marfou', alors que le hadith est mawquf, ce qui est annexé au compagnon, radiallahu anhu. Voyez? Non. Donc, il a été rapporté un hadith marfou' selon Ibn Abbas, c'est-à-dire selon Ibn Abbas, le hadith il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais selon Omar, le hadith il s'arrête au compagnon, c'est-à-dire Omar, radiallahu anhu, qui a dit, Ayyuma amatin waladat. Lorsque, ou quelle que soit l'esclave femme, Al-Ama, c'est l'esclave femme, d'accord? Ama. Lorsque l'esclave femme donne naissance à un enfant de son maître. Son maître donc a eu des rapports avec son esclave et elle est tombée enceinte et elle a enfanté un enfant donc de son maître. D'accord? Fahiya hurratun, elle est libre ba'da mawtihi. Elle deviendra libre après sa mort, c'est-à-dire après la mort de son maître. Elle deviendra libre. Et bien sûr l'esclave lui l'esclave, l'enfant lui, il est automatiquement libre. L'enfant, lui, il est automatiquement libre lorsque c'est l'enfant, bien sûr, de sa mère qui est esclave, mais son père, c'est son maître, il est libre, son père. Donc l'enfant, il est automatiquement libre. Mais sa mère, elle deviendra libre, yani, qu'après la mort du père de l'enfant. D'accord? Taïb. Fa hadhihi al-ama summiyat umm al-walad li'anna waladaha huwa alladhi a'taqaha. فإذا يشترط في عتق أم الولد شرطان أن تحمل بالولد في ملك سيدي في ملك سيدها لا في ملك غيره وثانيا أن تضع الجنين وقد وقد تبين فيه خلق الإنسان فإذا وضعت نطفة أو علقة أو مضغة لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا تعتق والغالب أنه لا يتبين فيه خلق الإنسان إلا بعد 80 يوما. Donc ici, cette femme qui devient libre après la mort du père de son fils, d'accord, qui est donc le fils, son fils à elle et aussi le fils de son maître, eh bien on l'appelle Umul Walad, la femme de l'enfant. Pourquoi la femme de l'enfant? Parce que c'est son enfant qui l'a libérée. Si on veut imaginer un peu, c'est comme si son enfant était celui qui libérait sa mère, parce que Yanni, c'est la cause pour laquelle elle a été libérée. D'accord? Donc, la faïda ici, l'enseignement que l'on retient, c'est qu'il y a deux conditions à ce que Umul Walad, donc la mère de l'enfant, devienne libre après la mort de son maître. La première condition, que bien sûr elle soit enceinte de l'enfant, alors qu'elle est encore sous. Donc, sous la propriété de son maître et pas la propriété de quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'elle soit enceinte de lui et qu'elle appartienne encore à lui. D'accord? Et deuxième condition, qu'elle mette au monde, il y en a cet enfant-là, ou Naam, cet enfant, et lorsqu'il est mis au monde, même s'il est mort, eh bien, cela sera également effectif, à condition que on voit sur l'enfant un aspect de l'être humain, un aspect de l'être humain. Donc il se peut qu'elle fasse une fausse couche et qu'il meure à la naissance, mais même s'il est mort à la naissance, mais qu'on voit que il a un aspect humain, un visage, des mains, des pieds, des traits du visage, etc. Eh bien cela sera effectif quand même, d'accord? Par contre, si elle met au monde, elle fait une fausse couche et elle met au monde, que ce soit une outfa, du liquide ou alaqa, des caillots de sang ou comme de la chair mâchée, moudra, et qu'on voit donc, on voit pas d'aspect humain sur ce qui a été donc ce qui est sorti du ventre de la mère, dans ce cas-là, ne pourra pas être affranchi. Dans ce cas-là, ne pourra pas être affranchi après la mort de son maître. D'accord? Il faut forcément soit qu'il naisse normalement et qu'il soit vivant, ou soit qu'il naisse mais qu'on voit un aspect humain né sur cet enfant-là, même s'il est mort-né. D'accord? Et Al-Ghalib, comme ont dit les médecins, dans la majorité des cas, on ne voit l'aspect humain chez l'embryon, ou chez l'enfant, seulement après 80 jours. Donc après 80 jours de grossesse, en général, c'est là où commencent à apparaître les premiers aspects humain. طيب والحمد لله. فهذا الحديث أخرجه ابن ماجة. أخرجه ابن ماجة حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص في إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جدا، وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ وسناده صحيح. ومعنى الحديث أن السيدة إذا وطئ أمته فحملت وولدت له فإنها تصير حرة بعد موته. Donc, ce hadith qu'on a cité tout à l'heure, on a dit marfou sur Ibn Abbas et mawquf par rapport à la chaîne de transmission de Omar. Donc, le hadith d'Ibn Abbas, yani marfou, qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith apporté par Ibn Majah et sur lequel Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans Talkhis, il a dit sa chaîne de transmission, elle vient de Hussein Ibn Abdullah Ibn al-Hashimi. Hussein ibn Abdullah al-Hashimi. Et cette personne-là, Hussein al-Hashimi, va'if jiddan. C'était quelqu'un de très faible dans la transmission des hadiths. D'accord? Donc, c'est pour ça que le hadith, il peut être annexé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut être faible aussi. Ça ne veut pas dire qu'il est authentique. Il peut être faible. Il faut regarder la chaîne de transmission et les transmetteurs, chaque transmetteur de la chaîne. Par contre, le hadith d'Omar, on a dit qu'il est mawquf, qui s'arrête à la parole de Omar. Donc c'est Omar qui parle, d'accord? Rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Elle, sa chaîne de transmission, elle est sahih, elle est authentique. D'accord? Donc le sens du hadith est que lorsque le maître a un rapport avec son esclave, et qu'elle tombe enceinte, et qu'elle enfante, eh bien elle deviendra automatiquement libre après la mort de son maître. Naam. Al-rajihu al-mawquf ala Omara wallahu a'lam. Donc ce qui est authentique ici, c'est que ce hadith il est mawquf, c'est-à-dire qu'il s'arrête à la parole de Omar, radiyallahu anhu, wallahu ta'ala a'lam. Donc, ainsi on termine le chapitre concernant la libération des esclaves, et lundi prochain, inshallah ta'ala, on pourra commencer le chapitre concernant les règles de an-nikah, les règles du contrat de mariage. Hein? Les règles du contrat de mariage. Walhamdulillah. Wal'ilmu 'inda Allah wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama taslima. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.